RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean Lecroix.
Bonjour Louis Amar, bonjour à tous.
À la une, le rallye, Julien Ingrassia, 6 fois champion du monde avec Sébastien Ogier, sera notre invité dans quelques minutes. Avec lui, nous reviendrons notamment sur le Tour de Corse disputé la semaine dernière. On programme également la moto, pas de Grand Prix ce week-end, alors on débriefe les deux premières manches de la saison avec l'ancien pilote Jean-Claude Augrel. Pour l'instant, Marc Marquez est en tête du championnat. Et puis à 13h40, toutes les nouvelles de la F1 dans Radio Paddock. C'est parti pour Motors, bienvenue.
RMC Motors.
190, 150 mètres, droitine, 320.
Le briefing. Jean-Luc, ton premier invité est en quelque sorte la moitié d'un des plus beaux duos du sport français. Le fidèle copilote de Sébastien Ogier avec qui il a remporté 6 championnats du monde des rallyes consécutifs. Bonjour Julien Gracia.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous et merci d'être fidèle à Motors, Jean-Luc.
Oui, salut Julien. Merci beaucoup d'être avec nous. Je sais que tu descends de la voiture, donc je ne trahis pas de secret. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais et où ?
Alors là, je suis parisien pour la journée. J'ai 2-3 bricoles à faire sur Paris, donc je fais juste un aller-retour en TGV.
Ouais.
Mais effectivement, on a fait des essais au Portugal pour préparer le rallye d'Argentine et du Chili. On a fait ça pendant 2 journées au nord de Porto. Donc je suis rentré hier. On a eu des conditions climatiques assez relevées, on va dire ça comme ça. Mais on s'est employé à trouver un setup pour ces deux rallyes, et notamment pour l'Argentine qu'on n'a jamais gagné. Et le Chili, qui est un rallye nouveau, avec manifestement beaucoup de gravettes, beaucoup de pollution, on appelle ça comme ça, quoi, au sol.
Oui, bien sûr, on rappelle les dates, hein, c'est du 25 au 28 avril pour l'Argentine, et le Chili, comme tu le dis, c'est un nouveau pays, ce sera juste avant du 10 au 12 mai. Alors je vais te donner quelques chiffres, et je sais que ça va t'inspirer tout de suite. Par exemple, si je te dis 82 80 77, c'est pas un numéro de téléphone, qu'est-ce que ça représente?
Les quarts de poule. Non, plus
d'une jeune personne non plus. Bravo, bien trouvé.
Alors, vas-y, répète. 82.
Alors, 82, à ton avis, c'est attaché à un certain Thierry, 80, toi-même et Sébastien, et 77, c'est Ottanak, si tu vois ce que je veux dire.
Ah, pardon, j'étais en train de chercher une année.
C'est
une
pas
année,
un piège, non.
Ouais. Ouais, effectivement, le championnat est assez
bah oui.
C'est comme qu'il avait pas commencé, finalement.
Ouais.
On est, on
écoute,
tout à zéro et on se doutait bien de toute manière qu'on aurait au moins Tanak et Neuville comme concurrents directs cette saison. Et bah, je pense qu'on en parlera après, mais on a vu qu'il y avait aussi Evans qui avec M-Sport arrive à faire des perfs très honorables, des très belles perfs même. Donc un championnat WRC, pour ceux qui suivent pas le WRC, les rallyes, c'est quelque chose d'excitant c'est bien parti pour qu'on ait un championnat 2019 équivalent à celui de 2018 qui se joue dans la dernière spéciale du dernier rallye.
Vous vous attendiez justement, Julien, à avoir une concurrence aussi féroce ?
Oui, bah oui, on a eu le temps de jauger nos adversaires l'an passé et puis l'année d'avant aussi. On a bien vu tout le monde. En tout cas, voilà, Neuville et Tanak vraiment quoi monter en gamme et devenir de plus en plus agressif, on va dire, sur le terrain. Après, ben voilà, jusqu'à présent, on a toujours réussi à les contenir et à gagner, même malgré nos changements d'écurie et l'adaptation à la voiture et les équipes qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On est en face de gens qui effectivement connaissent bien leur monture, qui sont bien entourés dans le sens où voilà, il y a des automatismes de travail qui sont créés depuis de nombreuses années. Nous, avec Citroën, et ben c'est une nouvelle page qui s'écrit, une nouvelle aventure. On découvre les setups sur tous les terrains. On découvre la voiture, ça veut dire qu'il faut redoubler d'énergie, de concentration.
Justement, au plan de la découverte de la voiture et des performances, est-ce que vous êtes là où vous espériez être à ce moment de la saison ? Est-ce que le plan de marche, le tableau de marche d'apprentissage de la voiture est respecté pour l'instant ?
Je dirais que oui, globalement, et puis en ayant 2 victoires sur 4 rallyes, sachant qu'au rallye de Suède, on pouvait strictement pas se battre du tout pour une place sur le podium ou notre position sur la route, je dirais quand même que on n'a pas à rougir, que l'équipe de test, l'équipe d'exploitation ont fait des bons boulots. Après, on sait quoi, ça se joue dans le détail, ça se joue sur pas grand-chose dans le championnat, il faut garder chaque point là où on peut les prendre, et d'où la question sous-jacente. Le rallye de Corse, effectivement, on n'était pas au rendez-vous en termes de perfos. On est encore en train d'éplucher tout ça là faut bien mettre le doigt dessus et compenser le tir. Bon, pour le prochain rallye asphalte, ça sera fin août en Allemagne, donc on a le temps,
oui, un peu de temps
de repenser à tout ça. Mais malgré tout, on a d'autres challenges qui se présentent, qui se profilent avec des terrains qui sont tous plus différents les uns que les autres. En Argentine, on a trouvé un terrain cassant, plutôt sablonneux, qui se creuse, quelques rivières, quelques gués à traverser. Donc tout ça sont des problématiques inhérentes à chaque rallye, et il faut être au rendez-vous. On n'a pas le droit de se rater sur aucune des items. On va dire qu'on a claqué notre joker en Suède malgré nous, et que maintenant il faut faire entre guillemets du sans faute, en tout cas marquer des gros points à chaque rallye.
Julien Ingrassia, le copilote de Sébastien Ogier, et l'invité de Motors en direct sur RMC, Jean-Luc.
Oui, alors des petites questions, tu les as déjà soulevées, Julien, dans tes réponses. On va revenir, si tu veux bien, sur le Tour de Corse, qui est une très bonne nouvelle finalement, parce que vous en êtes bien sorti, mais on a été inquiet un moment. Vous étiez redescendu sixième, hein, si je ne m'abuse. Alors qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Pourquoi apparemment sur l'asphalte, la voiture, on rappelle c'est la Citroën, hein, bien sûr, c'est nouveau pour vous, ne fonctionnait pas aussi bien que prévu, ou tout au moins aussi bien qu'ailleurs?
Alors, on le sait, de toute manière en rallye, ça peut arriver à n'importe quelle équipe, ça, entre les tests, où on peut être très satisfait d'avoir fait deux belles journées de test. On avait fait quasiment 500 km, ce qui est beaucoup, où on avait pu voir l'ensemble des panels de setup qui étaient sur la voiture. On était content, mais Seb l'a dit de toute manière au début du rallye, il a dit c'est qu'en conditions réelles qu'on juge vraiment quoi, de l'efficacité de notre séance de test. On va dire que ça nous est rarement arrivé dans notre carrière de finalement attaquer un rallye en étant si loin de ce qu'on espérait avoir en termes de performance. Mm-hmm. Et c'est pas habituel non plus du côté de Citroën.
Non, c'est ce que j'allais dire.
Ouais. Qui sont des Citroën a toujours été une référence sur asphalte.
Absolument.
Et donc là, c'était un peu on l'a dit, et puis il y a pas à se cacher, c'était une déconvenue pour nous. On n'était pas au rendez-vous en termes de performance. On a eu la chance. On s'est accroché l'équipe, Seb et moi. On a rien lâché jusqu'au bout, et ce qui fait que qu'on a réussi à finir deuxième avec l'effet de course, mais qui font partie aussi du rallye. Mais effectivement, et on n'avait pas une grande gloire, on va dire, sur ce rallye-là, vu qu'on a fait zéro temps scratch, ce qui est vraiment hallucinant.
Ouais, il y a longtemps que c'est pas arrivé.
On a identifié qu'on avait une voiture qui avait du mal à tourner, hein, ça paraît bête de dire ça, mais
avec 10 000 virages, c'est ennuyeux quand même.
On a des machines qui sont très compliquées à régler parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en interaction, les barres anti-roulis avant-arrière, les différentiels mécaniques avant-arrière et centrales qui peut être géré. La balance de la voiture, c'est très 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 complexe, et puis on n'a pas de simulateur en rallye, hein, donc on a des ingénieurs qui bossent énormément, mais après, une fois qu'on est sur le terrain, c'est là qu'on découvre les choses.
Alors, une autre question, comment ça se passe dans l'habitacle? Tu vas peut-être pas tout nous dire, mais si, quand même, puisqu'on est entre nous. entre Seb et toi, quand ça part mal comme ça, quand je sais pas, ils sentent pas la voiture, est-ce que déjà toi tu le sens? Est-ce que tout de suite tu dis c'est pas comme d'habitude?
Ouais, bien sûr, dans le pilotage de Seb, après toutes ces années-là, j'arrive à voir quand il arrive à être incisif avec la voiture, à être à l'aise. Quand on voit son pilote envoyer la main sur le frein à main en préventif, on va dire ça comme ça, quoi, au cas où, on est dans un virage qui se prend en trois, il y a aucune raison, quoi, en temps normal, qu'il ait la main sur le câble. Mais ça se ressent, ça se sent, donc immédiatement. Il faut surtout pas s'énerver, perdre son sang-froid. On contacte directement les ingénieurs, quoi, pour avoir un échange avec eux et voir qu'est-ce qu'on a pu, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quoi, on va dire, sur le setup, qu'est-ce qu'on peut toucher, quoi, pour tenter ce sous-virage, en l'occurrence. Après, il faut prendre son mal en patience quand on voit que, de toute manière, effectivement, on est mal parti dans le rallye, qu'on est déjà à 30 secondes de la tête, et que sur asphalte, ça se joue à coup de dixième. Là, il faut penser championnat, il faut
sauver les meubles,
quelques places, et puis essayer d'aller prendre un point ou deux à la première stade aussi.
Julien, est-ce que dans ce genre de situation difficile où vous sentez que votre pilote est un petit peu en difficulté, votre rôle, c'est aussi justement de le calmer, de pas le laisser céder à la panique qui logiquement peut s'emparer de lui?
Oui, ça pourrait, dans le sens, quand je dis que ça pourrait, parce que Seb, en l'occurrence, là, ne s'est pas énervé outre mesure, puis au volant, il n'a pas fait n'importe quoi, et il a essayé de sauver les meubles, entre guillemets, quoi, en continuant d'attaquer et en lâchant rien. Et puis après, moi, mon rôle justement en ce moment-là, quoi, c'est de surtout quoi faire en sorte que tout se passe bien dans la communication au team, tous les petits soucis qu'on peut rencontrer, faire vraiment de la transmission précise. Ça veut dire aussi cadrer vraiment tout l'environnement. On a des ouvreurs, il faut que les notes collent avec leurs corrections, etc. Donc voilà, il faut continuer vraiment à faire le boulot de manière normale, on va dire, et puis laisser passer la vague.
Effectivement. Alors, est-ce que les mots sont différents dans tes échanges avec lui, au-delà des notes, évidemment, qu'en Corse, on le sait bien, il faut égrener parfaitement en suivant le rythme du pilote, mais quand ça va un petit peu moins bien, comme ça, est-ce que tu as quelques appréciations différentes ou est-ce que toi-même, tu te permets de retoucher quelques petites notes en fonction de ce que tu as senti?
Ah non.
Jamais. D'accord.
Non. Les notes, en aucun cas, d'accord, je vais toucher une note de moi-même et la changer. Alors oui, effectivement, si j'ai fait une petite annotation pendant la spéciale ou que il y avait soit un souci dans un virage, soit j'en parle avec Seb à la fin de la spéciale. Mais non, en aucun cas, un copilote doit prendre la décision de changer une note tout d'accord seul. C'est tellement précis, tellement rigoureux tout ça. Et puis le rallye de Corse, de toute façon, écoutez deux trois vidéos de caméras embarquées, regardez notamment la spéciale, je sais pas, la 5 et la 9 par exemple de ce rallye-là. Et essayer de parler par-dessus ma voix, vous savez, quoi, essayer de mimer, quoi, finalement, comme ma diction. Et vous verrez qu'on est dans une faille spatio-temporelle, quoi. C'est du délire, quoi. La vitesse à laquelle il faut et les enchaînements qui déboulent, c'est vraiment, moi, je suis revenu à la vie normale, là, les tests en Portugal, là, j'avais l'impression qu'on était à l'arrêt, quoi, tellement, il y a des lignes droites, on revit, quoi. Alors, c'est vraiment une apnée, c'est un exercice, coton, d'accord.
Ouais. Alors, la bonne nouvelle, on va en trouver une quand même, hein, pour l'Argentine, c'est que vous partez pas devant. Donc, pour balayer la piste, c'est plutôt pas mal, non?
Ah oui, bon, après, la bonne nouvelle, on est quand même fini deuxième aussi, et puis on a les meubles, et puis effectivement, on sera content de pas partir premier, parce que c'est un exercice qu'on a fait trop souvent par le passé, et on a vu que ça pénalise énormément. On regardait au Mexique, quoi, il y en a qui partait premier, quoi, il a pas gagné. Donc c'est plutôt une bonne chose, effectivement. Après, on le sait, je le disais en préambule, c'est un rallye qu'on n'a pas encore gagné. Donc on a aussi un objectif, quoi, c'est de réussir enfin à s'imposer sur le territoire argentin. Mm-hmm. Mais c'est toujours pareil, quoi. C'est que gagne le rallye, mais reste sur la route, quoi. Bon, ouais, ok, mais il va falloir prendre des risques à un moment donné aussi. Comment dire? Voilà, le championnat de toute manière est encore long. Il y aura une épreuve complètement nouvelle qui est le Chili pour tout le monde. L'Argentine cette année est une édition au pied collé, on va dire, de l'an passé. Et on sait que c'est plus compliqué de faire des écarts, quoi, lorsque nous on est bon avec ça, la découverte sur des spéciales nouvelles.
Ah, ça tombe bien alors, pour le Chili.
On a des notes qui collent bien. On a une prise de risque qui colle parfaitement aussi, quoi, ces conditions-là. On y retourne évidemment gonflé à bloc.
Bon, alors j'allais te poser la question, on va en profiter puisqu'on t'a, sur le Chili. Hein, donc d'abord l'Argentine, ensuite le Chili. Quel type de terrain? Est-ce que vous avez des renseignements précis là-dessus, des recos précises? Qu'est-ce que ça va être?
Alors, l'organisateur du rallye a fourni quelques vidéos des spéciales. Donc on a pu, effectivement, avant d'aller en test, avoir un aperçu de ces spéciales qui seront plutôt rapides, plutôt un terrain, un joli terrain, on va dire, mais rapide avec beaucoup de gravettes et pas mal bordé par la végétation, donc difficile quand même de voir un peu loin devant, quoi. C'est en forêt bordé par la végétation, donc c'est bon, voilà, quoi. Donc on va tout découvrir tout ça. Moi, j'arriverai quelques jours avant sur place pour checker mes routiers, m'imprégner, quoi, de la situation.
C'est dans quel coin du Chili exactement?
C'est 500 km au sud de Santiago, donc c'est à cette époque là quoi, c'est le début de l'hiver.
Eh ben oui, c'est ça.
Super. Merci beaucoup.
Merci.
Julien Gracia d'avoir été avec nous.
À
très vite. Allez, dans
salut,
Motors. Julien, bonne journée. Prochain rallye, donc on le rappelle, le week-end du 28 avril. Ça sera en Argentine.
RMC, 13h-14h. Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h25 sur RMC. Bienvenue si vous nous rejoignez, Motors en direct avec Jean-Luc jusqu'à 14h. Dans un petit quart d'heure, Radio Paddock pour tout savoir de la F1. Mais et d'abord, oui, la moto. Deux manches du championnat du monde 2019 ont été disputées. La dernière, il y a une semaine, en Argentine, c'est Marc Marquez qui l'a emporté, prenant ainsi la tête du classement général. Jean-Luc, juste avant d'accueillir notre invité Jean-Claude Augrel, ton regard sur ce début de saison, est-ce qu'il est conforme à tes attentes?
Alors, à mes attentes, à mes espoirs, parce que on peut dire que Marc Marquez, bon, a frappé fort, presque trop fort, j'oserais dire, en Argentine, tellement, on va en parler avec Jean-Claude dans un instant, mais tellement il a pris un départ canon, il a un peu tué la concurrence. Maintenant, derrière, on a bien vu que le fait que Valentino parvienne, lui, à se défaire de la Ducati, même si, des Ducati, je devrais dire, même si c'est avec difficulté, ça démontre que l'ancien, 40 ans aujourd'hui, hein, il a encore du répondant, et il faut toujours compter avec lui en course, même si peut-être aux essais il a un petit peu plus de mal, puis ça veut dire que les Yamaha reviennent. Et pour revenir sur le Qatar, bah, effectivement Marquez était là, la bataille Marquez de Vizioso, c'était quelque chose de grandiose. Enfin, on a l'habitude, je dirais, à moto, et c'est vraiment un sport qui réserve souvent jusqu'au dernier tour, à part, je viens de le redire, l'Argentine, mais qui réserve des surprises, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'on peut se dépasser 5-6 fois dans le même tour à moto.
La troisième manche du championnat du monde, ça sera le week-end prochain, Grand Prix des Amériques sur le circuit d'Austin au Texas. Au classement général provisoire, Marc Marquez, je vous le disais, est donc en tête à 45 points. Andrea Dovizioso, deuxième, 41 points. Valentino Rossi, troisième, avec 31 points. Le premier français, c'est Fabio Quartararo, 12e, ex aequo, avec 8 points. On en parle avec l'ancien pilote et maintenant membre honoraire de l'équipe de Motors. Bonjour. Bonjour Jean-Claude Augrel.
Bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous, comme tous les dimanches, ou presque, mais c'est toujours un plaisir. Jean-Luc.
Oui, c'est toujours un plaisir. Salut Jean-Claude. Merci,
bonjour.
Merci de distraire quelques minutes pour être avec nous. Je sais que t'aimes bien, autant que nous, alors ça tombe bien.
J'adore ça. C'est trop rigolo de parler de moto.
Bon, bah oui, ça tombe bien. Alors écoute, déjà on va commencer en deux mots par ce que je viens de dire. J'espère que t'es d'accord au moins. Mais c'est vrai qu'il faudrait pas que Marquez écrase le championnat, j'ose dire. Il faudrait pas que ça se poursuive. Et on sait qu'à Austin, il est très fort. Hein. Tu le sais comme moi.
Alors le prochain Grand Prix, ça va être un peu la répétition de ce qui s'est passé en Argentine. C'est-à-dire que je pense, oui. sauf problème, sauf chute, sauf casse, mais il a quand même, en plus, il a une chance énorme. Il tombe souvent aux essais. Là, on a vu, sa chaîne déraille, sa chaîne saute de sa Honda. Pendant les essais et pendant la course, il ne se passe absolument rien. Donc il est quand même extrêmement chanceux, mais cela dit, il provoque la chance aussi, il le mérite. Donc je pense qu'à Austin, ça va être un peu bis repetita. Un peu comme Bautista en ce moment en SBK d'ailleurs.
Oui, on en parlait effectivement en Superbike où le pilote espagnol est en train d'écraser 7 victoires, hein, c'est ça, de rang, Jean-Claude. C'est incroyable.
Exactement. 7 victoires de rang. Et alors, pour avoir regardé la course d'hier, il a gagné de la même manière que Marquez. C'est-à-dire qu'il a mis 10 secondes à tout le monde. Et après, la course, c'était derrière. Très intéressante d'ailleurs, mais derrière.
Au détriment d'un certain Rea, qui jusque-là, pourtant, lui, était l'homme fort de la catégorie. On en revient au MotoGP, si tu veux bien. Alors, il devance Rossi, je viens de le dire aussi en répondant à la question de Louis. Comme toujours, je dirais Rossi, en course, il a pas son pareil. Il est rugueux, il est solide. Bon, il avait terminé que 5e au Qatar, mais là, on sait qu'à 40 ans, on a conservé les mêmes capacités. Toi, tu as un tout petit peu plus de 40 ans, tu as conservé toutes tes capacités aussi, Jean-Claude?
Pas autant que Rossi, malheureusement. Moi, j'ai couru avec son père, donc oui, évidemment. Depuis, ça a un peu changé. Mais cela dit, j'adore toujours piloter une moto sur circuit. Ça m'amuse toujours. Mais pour en revenir à Rossi, il est impressionnant. Il a été malin, mais malin lors du dernier Grand Prix. C'était visible ce qu'il allait faire.
Au détriment de Dovizioso, qu'il avait emporté. Alors, je vais y aller carrément. Bon, Rossi, on sait qu'il court toujours après ce 10e titre, hein, c'est ça le problème. Pour lui, pour attraper un certain Giacomo Agostini, 15, ça va être difficile quand même.
À mon avis, impossible. Mais ce n'est pas la même époque. Agostini participait aux courses en 350, en 500. Il avait une moto d'usine, 3 ou 4 cylindres, et il luttait contre des gens qui avaient des monocylindres, Norton, Manx ou autres. C'est plus la même époque. Donc, et avec tout le talent et tout l'admiration que j'ai pour Agostini, autre époque.
Autre époque, absolument. Alors, Dovizioso, c'est le troisième. Quand t'écoutais certainement l'émission, on parlait de rallye avec Julien Ingrassa il y a un instant. C'est une bataille à trois. Est-ce que tu penses que à moto, ça risque d'être une bataille à trois avec Marquez, évidemment, avec Rossi, on vient d'en parler, et puis avec Dovizioso, qui est quand même a priori le leader de Ducati, on peut l'appeler comme ça?
Ah, très clairement, c'est le leader de Ducati, de la même manière que Rossi est le leader chez Yamaha, et de la même manière que Marquez est le leader chez Honda. Donc là, oui, très clairement. Alors, Lorenzo, je suis extrêmement déçu de Lorenzo, parce que, c'est toujours long à apprendre, machin, bon, ça a été pareil chez Ducati, il y a un moment où, pourtant c'est un tel beau pilote, je suis un peu déçu. Il va s'y faire à la Honda, c'est clair, mais enfin, si à chaque fois il met une saison, le temps passe.
Oui, et puis ça va peut-être pas plaire longtemps à Honda. Une petite question avait été posée, tu l'as lu comme moi certainement, à Marc Marquez à ce sujet. Bon, il a répondu assez élégamment en disant qu'effectivement, il fallait toujours un petit peu de temps à Jorge Lorenzo pour prendre la mesure de ces nouvelles machines, comme ça avait été le cas chez Ducati. Allez, on en vient au français, si tu veux bien, et on va commencer par évidemment celui qui a confirmé, qui est en train de confirmer, c'est Fabio Quartararo. Là, on peut dire qu'il a fait une course superbe hein, en Argentine. Il y a rien à dire. Septième, si je me souviens bien, aux essais, huitième en course.
C'est le talent à l'état pur. Alors, cela dit, il semblerait quand même que la Yamaha soit la moto la plus facile à piloter. Quand je dis facile, entendons-nous bien, on est dans des motos à 280 ou 300 chevaux. Quand je dis facile, facile pour des gens comme ça, facile pour des champions, facile pour des experts. Demain, le commun des mortels monte sur cette moto, il sait pas quoi en faire. Mais il semblerait que cette moto, la Yamaha, soit la plus facile. Et effectivement, tous les pilotes qui arrivent chez Yamaha, voire Zarco l'année dernière ou l'année d'avant, il semblerait que tous les pilotes qui arrivent sur une Yamaha s'en sortent très bien, voire Morbidelli aussi. Mais Quartararo, c'est un vrai talent et franchement on peut même plus être étonné maintenant parce que je pense que ça va aller de mieux en mieux et qu'il est vraiment un très bon pilote, c'est indiscutable.
Jean-Claude Augrel, l'ancien pilote moto et l'invité de Motors en direct sur RMC. Jean-Claude, on parlait de Fabio Quartararo et même si sa machine est peut-être un petit peu plus souple, un petit peu moins difficile à apprivoiser, est-ce que vous êtes surpris quand même de le voir si bien résister à la pression? Parce qu'il y a quand même un grand saut entre les catégories inférieures et le MotoGP.
Alors, je suis d'autant plus surpris qu'il n'a pas été. Je vais me faire tuer, mais c'est pas grave. Il n'a pas été ce que j'attendais en Moto 3 et en Moto 2. C'est-à-dire
non,
que
mais on l'a montré.
Il a quand même.
Absolument.
Il a quand même gagné des championnats d'Espagne coup sur coup à 15-16 ans, c'était le meilleur. Tout le monde, comme l'a dit Rossi d'ailleurs, tout le monde l'attendait comme une superstar. Même Rossi l'a dit. Hein. Et finalement, en Moto 3, ça a été. Allez. À ce niveau-là moyen, c'est-à-dire hors du commun des mortels encore une fois. En Moto 2, ok, il a gagné une course, il en a gagné deux, une fois il a été déclassé, mais il avait gagné quand même. Mais au bout de la deuxième saison, et puis pas si facile que ça, là, sincèrement, visiblement, c'était une Moto GP qui lui fallait.
Ah, il est dans le coup. J'en ai parlé avec lui à la présentation du Grand Prix de France là il y a quelques jours. Et effectivement, il y a une question de format aussi. Tu es d'accord avec ça malgré tout? Il est grand, il est longiligne. Il avait un petit peu de mal à tout rentrer, j'ose dire, derrière le carénage, surtout en Moto 3. Donc là, sur une Moto GP, même si on le sait, hein, le volume des machines a été réduit au fil des années, on le sent plus à l'aise d'entrée. Tu crois aussi à cette question de morphologie, même si on va toujours trouver des contre-exemples. Hein. Marquez n'est pas très grand, et puis Dani Pedrosa, lui, c'était joker, comme on le disait tout le temps.
Ah oui, ben Marquez, c'est 1m68, je crois, et 59 kilos, quelque chose comme ça. Évidemment, Agostini n'était pas grand. Enfin, il y a peu de pilotes très grands. Rossi est grand. Bien sûr. Mais évidemment, la moto, le gabarit de la moto va mieux convenir à Fabio une moto GP qu'une moto 3. Vous rendez compte, sa grande carcasse entre guillemets sur une moto 3, c'est impossible à caser.
Bah oui. Alors on en vient à l'autre Français, Johann Zarco. Là, malheureusement, pour le moment, on va dire que 15e au Qatar et 15e en Argentine et encore avec difficulté. Alors il était dans un paquet. On peut observer quand même qu'il n'était pas très loin de la 13e place de Crutchlow. Mais on le sent à la peine, en tout cas, on le sent même dans ses déclarations. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la situation? Bon, après deux Grands Prix, c'est un peu tôt. On sait qu'il est parti au moins pour deux saisons avec KTM. Et apparemment, c'est un petit peu tout qui clocherait.
Alors, visiblement, ça ne lui convient pas. Voilà. Oliveira s'en sort mieux avec la moto de Tech 3 d'Hervé Poncharal. Espargaro s'en sert mieux aussi. Visiblement, pour l'instant, la moto ne lui convient pas. Pour avoir vu rouler et être double champion du monde en Moto 2, quand même, Johann Zarco, il va évidemment progresser, il va évidemment essayer de s'en sortir. Mais c'est pas gagné quand même. Là, on n'est plus sur une moto japonaise, c'est plus compliqué à piloter. Bon courage, mais c'est pas gagné.
C'est pas gagné, oui. Il y a beaucoup de choses à faire évoluer. Et puis déjà, chez KTM, on a vu passer un communiqué aussi où il disait qu'il remettrait pas en cause l'architecture et le cadre de la machine. Bon, on verra ce qu'il en est. On va laisser la saison avancer. Alors, ma dernière question, et oui, déjà, Jean-Claude, c'est sur ce circuit d'Austin qui est fabuleux pour la F1, on peut le dire. On y a vu de très belles courses. Pour la moto, il est fabuleux, sauf si Marquez part devant. On est d'accord?
Bah, c'est un peu ça, hein. Austin Marquez, c'est un mariage d'amour, hein. Donc ça risque de faire ce qui s'est passé en Argentine. Après, on va arriver sur des circuits où ça sera plus pareil, mais là, Austin, j'ai peur que encore qu'une la moto, c'est un sport tellement combatif, tellement intéressant, il se passe tellement de choses que rien n'est joué d'avance. Rossi va bien aussi à Austin, hein. On se souvient de dépassements mémorables de Rossi avec Stoner et autres. Voilà, mais c'est vrai que Marquez, pour l'instant, là, le prochain Grand Prix, c'est encore un petit temps d'avance, ouais.
Oui, merci beaucoup, Jean-Claude Augrel, d'avoir été avec nous.
Salut, Jean-Claude.
À très vite, bien sûr, dans Motors.
Avec
prochain
plaisir,
Grand Prix,
à très vite.
On vous le rappelle. C'est dimanche prochain aux États-Unis à Austin.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h41 sur RMC, Motors en direct avec Jean Lecroix. Vous retrouverez ensuite à 14h Christophe Cessieux pour l'intégral sport. Au programme notamment cet après-midi, la Ligue 1, Reims-Lille peut être décisif dans l'attribution du titre, le vélo, le Tour des Flandres et le top 14 Clermont Racing. C'est à 16h50. Mais tout de suite, Radio Paddock.
RMC, Motors.
World Champion!
Radio Paddock.
Avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Lucho, salut le King, salut à tous.
Salut Benoît.
Je suis un peu déçu parce que lorsque nous ne sommes pas diffusés sur RMC oui. Sport News à la télé, oui. Jean-Luc est plus sobre au niveau des chemises.
Mais oui, absolument. Ah oui,
en fait, il met les chemises sobres lorsqu'on n'est pas à la télé.
C'est ça, d'ailleurs, je sais qu'on a une bonne occasion de faire cette précision puisque vous êtes quelques-uns à nous l'avoir demandé, notamment sur Twitter. Motors est en direct sur RMC Sport News quand il y a des grands prix de Formule 1.
Voilà.
Voilà. On met les petits plats dans les grands pour la F1. Donc, dimanche prochain, 13h,
on
sera en direct
donc,
sur RMC.
Chemise originale.
Et à la télé sur RMC Sport News.
Je la prépare déjà.
La semaine. Oui, c'est ça, exactement.
Vous allez être surpris.
Oui. Parfait. On commence justement, Benoît, par la F1 puisque, les pilotes ont roulé cette semaine, mais dans l'intimité puisque les essais, évidemment, privés ne sont pas diffusés.
Exactement. C'est une des particularités. Le Grand Prix de Bahreïn, donc, s'est déroulé, la semaine dernière. On l'avait sur RMC, c'était fantastique. Malheureusement, c'est pas terminé comme on l'aurait souhaité avec les problèmes mécaniques de Charles Leclerc. Et effectivement, quelques jours plus tard, il y a eu des essais privés, deux séances d'essais, deux journées en fait d'essais privés pour les différentes écuries. On va pas tenir compte des chronos puisque on connaît pas forcément le taux d'essence dans les voitures, on connaît pas les pneumatiques. C'est beaucoup justement, ce sont des tests, donc ça doit servir aux écuries pour tester les machines. Ce qu'on va retenir tout de même, c'est qu'on a vu un certain Mick Schumacher au volant d'une Ferrari, et ça, rien que pour l'image, c'est fantastique. C'est son premier vrai test en Formule 1. Et là où il nous a impressionné, Jean-Luc, tu vas nous dire si ça veut dire quelque chose ou non, c'est que sur la première journée, il fait le deuxième temps juste derrière Max Verstappen.
Alors, pour les raisons que tu as évoquées juste avant, on peut pas considérer que la performance soit une référence, puisque on a vu, bon, si on prend la hiérarchie des monoplaces qui, pendant le Grand Prix, n'étaient pas là, très bien figurés, j'ai pas la grille, là, j'ai pas le résultat plus exactement des essais dans le détail, mais il y a eu des performances qui étaient atypiques, on va dire, voilà, qui ne correspondaient pas aux résultats enregistrés deux jours précédemment.
Hamilton est sixième.
Bon,
tu vois, c'est la première journée, par exemple.
On aura tout dit. Voilà. Donc, ça veut simplement dire que c'est une indication. En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est le calme et la sérénité dont il fait preuve malgré cette pression médiatique qui est absolument colossale et surtout en Italie, on l'imagine, puisque on a déjà dit à très haut niveau chez Ferrari que s'il avait le talent, c'est trop tôt pour le dire pour le moment, mais il serait en Formule 1 rapidement. Alors déjà, on en parlait hors antenne aussi, je peux te dire qu'évidemment, ou alors ce serait une catastrophe, soit pour Vettel, soit pour Charles, mais pas la saison prochaine. Sur 2021-2022 peut-être, à condition qu'il ait brillé en Formule 2, qui est quand même
bien
son
sûr.
Objectif. Il le dit, hein. Il le répète, lui c'est d'abord un pilote de Formule 2 qui a la chance d'être monté dans une Ferrari et dans une Alfa Romeo, et là, à mon avis, s'il arrivait sur la grille de départ en Formule 1, ce serait via Alfa Romeo.
Voilà.
Faire confiance
c'est
à Fred Vasseur.
C'est ce que j'allais te dire, c'est que effectivement, ça paraît difficile d'imaginer Schumacher détrôné à court terme Vettel ou Charles Leclerc, surtout compte tenu des performances de Charles Leclerc. En revanche, les écuries satellites de Ferrari,
un parcours à la Leclerc en fait.
Haas par exemple aussi, oui, ou un parcours à la Charles Leclerc chez Alfa Romeo.
Voilà.
Mais il y a absolument une possibilité puisque on se rappelle, et il faut rappeler également que lorsque deux écuries sont partenaires, Ferrari a le pouvoir, compte tenu du fait qu'elle fournit un moteur, notamment à la Haas, de placer un de ses pilotes.
Bien sûr. Alors, pour être clair, les liens entre Ferrari et Alfa sont plus forts
parce qu'avec AS.
Voilà, qu'avec AS. AS qui est un client qui paye ses moteurs, qui est bien servi, évidemment, peut-être pas forcément mieux qu'Alfa Romeo d'ailleurs en termes techniques, mais disons que la relation, si on va parler d'écurie B par rapport à Toro Rosso et Red Bull, voilà. Là, le lien est très clair. Eh bien, on peut oser dire que c'est Alfa Romeo Ferrari maintenant. On le voit avec Charles Leclerc. Voilà.
Et puis, de toute façon, ça serait pas un service que de le faire débuter en Formule 1 avec la voiture rouge.
Et j'allais presque dire avec Kimi Raikkonen en sens inverse, puisque là aussi, Kimi qui a abandonné la Ferrari un peu contraint et forcé pour laisser la place à Charles, eh bien se retrouve chez Alfa Romeo. Donc il n'y a pas de hasard.
Exactement. Donc c'est ce qu'on pouvait retenir de Schumacher. Autre enseignement à retenir, c'est qu'on a revu Fernando Alonso dans une Formule 1. Ça nous a servi à ça aussi, ces tests à Bahreïn. Alonso qui d'ailleurs n'a pas forcément brillé, puisqu'il fait 9e sur le premier jour et sur le dernier deuxième jour, pardon, il fait 11e. Là où ça nous fait un petit peu sourire, c'est qu'on l'a vu dans le paddock dimanche dernier. Bah, souvenez-vous, c'est une des images qui nous a un peu surpris. Oui, c'était même pendant les qualifs, je crois.
Bah, sur la murette des stands, quasiment.
Ouais, il était vraiment juste à côté du pilote pour lui mettre la pression, entre guillemets, quoi. Il était en train de le fixer. Alors, imaginez la pression du pilote qui était dans sa voiture et qui devait réaliser un temps. C'est quand même terrible d'avoir Fernando Alonso qui est juste à côté. On rappelle qu'il est toujours dans le championnat WEC. Pour l'instant, il remplit ses objectifs et il s'est exprimé sur son avenir, Fernando Alonso, sur l'horizon 2020. Il a dit « Pour l'instant, je réfléchis, je veux gagner toutes les courses dans lesquelles je suis engagé, notamment Spa, Indianapolis et Le Mans jusqu'à juillet. Je réfléchirai ensuite. » Et il a déjà lancé une petite info, c'est qu'il a dit en gros « Si mon écurie McLaren n'était pas prête à disputer les Q3 dans les qualifications, eh bien je ne reviendrai pas. » Donc en gros, il souhaite une voiture performante pour revenir en F1. C'est terrible quand même le pouvoir qu'il a sur cette écurie.
Je crois qu'on peut parler de fascination incroyable pour Zak Brown, le patron actuel de l'équipe, dont on sait qu'il a fait sauter tous les fusibles en dessous de lui. Donc le prochain qui saute, là, c'est lui. C'est clair pour tout le monde. Donc il faut que ça marche. Alors apparemment, on a commencé à redresser la barre du côté de McLaren Renault cette année. Maintenant, c'est pas suffisant pour attirer à nouveau ou réattirer un double champion du monde comme Alonso. Bah, Alonso, il est dans une position absolument idéale. Mais c'est vrai que pour les jeunes pilotes, non, on va penser à Lando Norris ou évidemment à Carlos Sainz qui arrive à avoir cette espèce de, j'allais dire, de d'ogre qui est au-dessus avec ses deux titres et qui est unanimement respecté et qui a sûrement un poids même dans les réglages et l'évolution technique de la machine. Alors, c'est très bien qu'il soit monté à bord, on a toujours plaisir à le voir, en plus on a eu un immense respect pour lui, mais je pense que c'est très dur à vivre, c'est une pression psychologique supplémentaire qu'on met sur Sainz, qui est pas si âgé que ça, loin
bien sûr.
Et sur Lando Norris qui débarque, c'est pas leur faire une grande confiance.
Non seulement c'est pas faire une grande confiance au pilote, et puis c'est quand même une attitude étrange, je sais pas ce que tu en penses Jean-Luc, mais il y a quelques mois, il est parti de la F1 en expliquant que de toute façon, ils pouvaient pas gagner, que McLaren en gros c'était des nullos, qu'ils arrivaient pas à faire fonctionner la voiture.
Ils fournissaient pas la voiture qu'ils espéraient.
Ils fournissaient pas la voiture qu'ils espéraient, avant c'était Honda qui fournissait pas le moteur qu'ils espéraient, donc de toute façon, c'était de la faute des autres, et pour le coup, il avait plutôt raison, puisque parfois, il faisait quand même de beaux grands prix. Donc, il a décidé de prendre du recul, d'aller essayer d'aller gagner la triple couronne, de faire d'autres choses. Et puis, il est tout le temps là, et il laisse planer un doute sur un possible retour.
Le pouvoir,
un peu marre,
non?
Un peu marre, là.
Ouais, moi je trouve ça lourd. Je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que c'est, on vient de le dire une nouvelle fois, très dur à vivre pour les deux jeunes pilotes qui ont beaucoup de talent. Carlos Sainz, ça c'est vrai que c'est quelque part aussi c'est un engagement à long terme parce qu'on se rappelle qu'il avait été prêté lui aussi, il sortait de l'écurie Red Bull, Toro Rosso, il avait été prêté temporairement à Renault, donc on savait que ça ne durerait pas trop. Là chez McLaren, ça y est, il a rompu le cordon ombilical, on va dire, il est vraiment chez McLaren pour faire une carrière et on attend de lui une carrière à l'Alonso, j'ose dire, c'est-à-dire avec des titres, et non, il a encore, alors il a beaucoup de respect, beaucoup d'amitié pour son grand ancien Fernando Alonso, mais l'avoir au-dessus de lui, je pense qu'à un moment, ça peut lui poser un problème, et ça peut le poser en tout cas Lando Norris, qui est une pépite, on peut le dire, qui déjà a démontré que c'était un garçon très rapide. Moi, je ne comprends pas la politique menée par Zak Brown, je viens de le dire une nouvelle fois, alors je suis peut-être un peu dur avec lui aussi, mais je ne comprends pas, quand on ne choisit pas comme ça, c'est très mauvais, d'abord pour les deux pilotes en place.
Et puis pour refermer ce chapitre, c'est très mauvais pour l'image aussi, puisque McLaren est quand même une écurie historique, et on a l'impression que c'est un pilote qui la balade.
Exactement ça, et que tout passe par lui. Absolument. Alors là, on va suivre ses efforts évidemment et ses tests avant Indianapolis, parce qu'on sait qu'il va se lancer dans cet effort. On parlait de triple couronne tout à l'heure. Bah, il a remporté Le Mans. Il a remporté Daytona. Il a remporté Sebring. Donc là, on va dire, il manque plus qu'Indianapolis. Bon, mais c'est un sacré morceau.
Alors deux petits points à voir avec vous sur la F1 encore. Effectivement, la situation chez Ferrari, puisque forcément, ça a un petit peu évolué. Ouais. Charles Leclerc a marqué les esprits de tout le monde, même du grand public, la semaine dernière, parce qu'il était à deux doigts de remporter son premier Grand Prix à Bahreïn. D'ailleurs, Jean-Luc, je crois que tu as la précision sur la panne qui a touché la voiture, la Ferrari de Charles Leclerc.
Hein. Et il avait raison, notre Jean-Luc.
Et voilà, mais c'est pas un expert pour moi.
J'avais parlé de Gremlins. Alors, chez Ferrari, on appelle ça un short circuit dans le système de contrôle de l'injection.
J'ai rien compris.
Donc, ça veut dire un capteur qui s'est croisé les bras. Malheureusement, a dit moi, j'en ai marre. Maintenant, j'arrête tout. Ouais. Des capteurs sur une Formule 1, il y en a 12 milliards 275 millions. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui envoie une info. Non, là, j'exagère évidemment dans le chiffre. Il y en a des milliers. Il y a des milliers d'informations qui remontent en temps réel. Et il suffit qu'il y en ait un qui fournisse une information qui soit illogique pour que, immédiatement, derrière, il y a des systèmes de sécurité. Il y a le calculateur qui met en sécurité. Donc, c'est même pas une casse mécanique, là, pour le coup. J'avais plaisanté aussi en disant que chez Ferrari, mais oui, on voyait des fois les moteurs exploser avec des boules de feu, de flammes, de l'huile partout, et on disait, c'est tout un petit problème électrique. Là, c'est un petit problème électronique qui coûte malheureusement sa victoire, mais on y croit. Elle va venir, cette victoire.
Et justement, forcément, ça a marqué Ferrari, d'autant plus qu'on rappelle que Sébastien Vettel ne fait pas un grand début de saison. Ouais. Il était en difficulté sur les deux premiers Grands Prix. Du coup, la question a été posée à Mattia Binotto, le responsable de cette équipe Ferrari, qui pour l'instant a plutôt ménagé Sébastien Vettel. Il a dit que oui, Charles Leclerc était un pilote de qualité, mais il a quand même dit, bien sûr qu'en tant que directeur d'équipe, je dois gérer les pilotes. Ce n'était pas le cas avant. Désormais, je veux aider Sébastien Vettel à bien ressentir la confiance de l'équipe. Nous donnons tout pour qu'il se sente bien. Il a cajolé un petit peu l'Allemand pour lui faire comprendre que c'était toujours lui le numéro un.
C'est normal. De toute façon, on n'a pas un quadruple champion du monde dans son écurie. Et puis, je vais oser dire aussi, vu ce qu'on le paye, on est obligé de miser sur Vettel dans le bon sens du terme. Et puis, c'est un garçon qui a beaucoup de talent. Maintenant, il cède sous la pression. On l'a encore vu partir en tête à queue pendant le Grand Prix dans le sillage de Hamilton.
Lui, c'était une erreur. En revanche, une erreur individuelle, quoi.
Ah, c'est une erreur. Ouais. Mais il l'a assumé. Il a dit, c'est de ma faute. Je me suis loupé. Bon, il a été déventé, enfin, peu importe, il y a forcément une véritable raison. Mais donc, après, et du coup, il a saboté ses pneus, et du coup, son aileron avant, dans la ligne droite qui suit, part en lambeau, et sa course est ruinée. Et il s'en sort bien, finalement. Il s'en sort avec beaucoup de chance dans ce Grand Prix, qu'il aurait pu terminer encore beaucoup plus mal que ça. Mmh. Donc, Vettel qui termine cinquième, mais tous les regards, on l'a dit et redit, étaient braqués, évidemment, sur Charles Leclerc, qui est une pépite, et qui a écrasé l'ensemble du week-end. Alors, on va voir en Chine, mais là, on s'attend tous à ce que Charles reste à un niveau extrêmement.
Alors, profitons de l'expertise du King, Jean-Luc Roy, quand même, pour faire un point sur ces fameux accords Concorde. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous en parle dans Motors, évidemment.
On va en parler encore longtemps.
Mais c'est très important. Ce sont les accords qui régissent toutes les lois de la Formule 1. Donc, c'est très important pour les règlements mécaniques de la F1, même les coûts des écuries, les coûts des voitures. Tout est géré par ces fameux accords Concorde.
C'est comme si on changeait de constitution tous les 5 ans.
Exactement, c'est exactement ça. Et c'est important puisque ça va venir vite. Les nouveaux accords doivent régler la Formule 1 à partir de 2021. Donc ça va venir assez vite.
C'est demain.
C'est demain, notamment pour les ingénieurs. D'ailleurs, tu as des nouvelles infos à nous donner là-dessus, Jean-Luc.
Alors oui, en fait, il y a trois entités, si on veut résumer. Il y a bien sûr la FIA qui édicte les règlements sportifs, donc tout ce qui est technique. On parle du moteur, on sait qu'il évoluera malheureusement, de mon point de vue, pas beaucoup, pour des raisons évidentes, c'est que les quatre constructeurs actuels ne veulent pas qu'il évolue. Ouais. Les fameux nouveaux constructeurs dont on nous a laissé entendre qu'ils étaient aux portes de la Formule 1, ils ne viendront pas, en tout cas pas tout de suite. Donc on va geler en quelque sorte, figer, en retirant simplement une des sources de régénération électrique, de charge électrique, pour simplifier et abaisser les coûts. Et on va normaliser tout ce qu'on peut normaliser. Voilà pour le moteur. Donc l'aéro, on en reparlera plus tard. On a vu que les mesures prises, et là on s'en réjouit, je m'en réjouis, ont été dans le bon sens jusque-là, sur les deux premiers Grands Prix, on va attendre la suite, mais favorise les dépassements et les rapprochements, même si on va toujours me dire que c'est un peu artificiel avec ce DRS, mais comme l'aileron est plus important devant, derrière, quand on abaisse l'aileron arrière, on gagne encore plus de performance. Bon, ça c'est l'aspect technique dont nous parlions, mais il y a l'aspect commercial qui est extrêmement important, ça c'est avec Liberty Media.
Et ça leur tient à cœur, parce que c'est leur spécialité.
Et ça leur tient à cœur, et la répartition, justement, des recettes de la Formule 1, qui sont plutôt en légère baisse, si on se réfère au dernier trimestre connu, c'est-à-dire 2018, malheureusement, ça se tasse un petit peu, on est encore à un paquet de milliards de dollars, dollars, mais il faut répartir ça entre les 10 équipes, et on sait que la clé ou les clés de répartition sont extrêmement complexes. C'est là-dessus qu'on se bat pour permettre aux petites équipes aujourd'hui, type Williams, voilà, on va prendre le dernier du classement, de continuer à vivre et même à survivre et à exister. Donc ça, c'est un aspect très important. Et puis il y a l'aspect promotionnel, il y a les nouvelles, les nouveaux grands prix qu'on essaie d'inscrire au calendrier. On a parlé du Vietnam qui devrait arriver.
On a parlé de Miami.
On a beaucoup parlé de Miami après avoir parlé de New York. Enfin bon, je crois que pour le moment, tout cet aspect-là était lié. Et puis le cost cap, et j'en viens à ça, c'est le côté pour limiter les sommes qui sont investies par les gros constructeurs et permettre, entre guillemets, aux petites équipes de pouvoir rivaliser sur certains jours avec les grandes. Et la transition va être toute faite puisque tu vas nous parler d'Indy,
Exactement.
Et en Indy, on a des budgets qui sont extrêmement réduits par rapport à la Formule 1, qui sont maîtrisés et où parfois les petites ou moyennes équipes viennent chatouiller les grosses. Donc c'est l'objectif qu'on aimerait essayer d'atteindre en Formule 1.
Allez, deux infos rapidement pour clôturer ce Radio Paddock. Effectivement, l'IndyCar, on a les résultats des qualifications pour le Grand Prix d'Alabama. Ça sera la nuit prochaine, je crois, Jean-Luc, ce Grand Prix donc d'Alabama. La pole pour Takuma Sato, voilà, qu'on a connu en Formule 1 également. Oui. Devant Graham Rahal, troisième place pour Scott Dixon. Belle perf pour Sébastien Bourdais qui partira cinquième.
Génial.
Il est dans la top 5, c'est très bien pour lui. Pagenaud a eu plus de mal, mais vit une saison galère, il est 14e. Et surtout, la surprise pour tous les fans d'IndyCar, c'est que pour la première fois depuis Long Beach en 2014, il n'y a aucune monoplace de l'écurie Penske dans le Fast 6, dans les 6 premières place de la grille, c'est quand même assez incroyable de voir ça.
Et oui, puis par exemple, le leader du classement hein, pour le moment, Joseph Newgarden, qui est un jeune Américain, 93 points, qui devance un autre très jeune Américain, Colton Herta, qui est le fils de Brian Herta, que là aussi j'ai vu rouler, on en parlait avec Jean-Claude, oui, mais c'est vrai,
il a eu beaucoup de talent.
Donc Colton Herta qui est deuxième, eh bien Newgarden va partir 16e, on imagine, à la régulière, on imagine le leader du championnat du monde qui partirait 16e en Formule 1.
Merci Benoît.
Merci à vous.
C'était Radio Paddock. Merci Jean-Luc.
Merci beaucoup Louis.
À dimanche prochain pour Motors.
Avec
le Grand Prix. On vous rappelle les rendez-vous. Grand Prix de Chine, 8h samedi, les qualifs, 8h10 dimanche le Grand Prix. Motors spécial avec toutes les réactions dès 13h sur RMC et RMC Sport News. Dans un instant, l'intégral sport avec Christophe Cessieux. Moi je vous retrouve à 16h. Belle journée sur RMC.